parole du jour avec le père Daniel Rambure.
Bonjour à toutes et à tous. Hier, nous avons commencé de faire connaissance de Joséphine Bakita et nous nous sommes arrêtés au moment où elle entre à l'Institut des catéchumènes et où elle répond oui avec enthousiasme à la question « Voulez-vous connaître Dieu ?» Une fois revenue de son voyage à Suakin, dans le Soudan, sur la mer Rouge, Maria Turina vient tout naturellement récupérer Bakita et Alice en vue de repartir pour l'Afrique. Mais les choses ne se passent pas comme prévu, et Bakita va montrer sa forte personnalité dès lors qu'il s'agit de répondre à l'appel du Seigneur. Elle refuse de suivre Turina Mkieli en Afrique. Elle explique elle-même les raisons de son attitude. Je cite « Je refusais de la suivre en Afrique parce que je n'avais pas terminé la préparation au baptême. Je pensais aussi qu'une fois baptisée, je n'aurais pu en aucun cas y professer ma religion. Il me convenait donc de rester avec les religieuses. » Madame Mkieli fait alors intervenir ses relations et menace aussi les pauvres sœurs de se plaindre de leur attitude à la supérieure générale de la congrégation. C'est le procureur du roi qui tranche définitivement le débat. « N'oubliez pas, madame, que nous sommes ici en Italie où, Dieu merci, l'esclavage n'existe pas. Seule la jeune fille peut décider de son sort avec une liberté absolue. » Nous sommes le 29 novembre 1889. Bakita est dans sa 20e année et elle peut rester au catéchuménat. C'est ce jour qui marque son affranchissement officiel et définitif. Vers la fin de 1889, son instruction religieuse est achevée et le 9 janvier 1890, Bakita reçoit le baptême des mains de Mgr Domenico Agostini, cardinal archevêque de Venise. Elle est également confirmée et communie pour la première fois. Elle s'appelle désormais Joséphine, Giuseppina, en fait Giosefa, du nom de sa marraine de baptême. Elle garde aussi les prénoms de Fortunata et Bakita, et reçoit en plus celui de Marie, pour se mettre sous la protection de la Sainte Vierge. Revêtue du vêtement blanc de son baptême, elle fait d'ailleurs ce même jour sa consécration à Notre-Dame, et reçoit la médaille et le ruban bleu des filles de Marie. Sa dévotion à la Sainte Vierge est grande, je cite, « La Sainte Vierge m'a protégée même quand je ne la connaissais pas. Même au fond du découragement et de la tristesse quand j'étais esclave, je n'ai jamais désespéré parce que je sentais en moi une force mystérieuse qui me soutenait. » Peu à peu grandit en elle le désir de devenir religieuse. Est-ce possible? La mère supérieure, Anna Previtali, ne s'y oppose pas. Ni la couleur de la peau ni la position sociale ne sont des obstacles pour devenir sœur. Le 7 septembre 1893, elle entre au noviciat dans la maison des catéchumènes de Venise et un an et demi après, le 21 juin 1895, le jour de la fête du Sacré-Cœur, c'est sa prise d'habit. Le 8 décembre 1896 à Vérone, elle prononce ses premiers vœux dans la maison même où la fondatrice, Madeleine de Canossa, a vécu. Elle reçoit aussi la médaille de Notre-Dame des Douleurs. En 1902, Joséphine est transférée de l'Institut des catéchumènes de Venise à la maison de Schio, au nord-est de Vérone. Contrairement à la première période de sa vie, les jours de Madre Moretta, mot à mot ça veut dire la petite mère noire, comme beaucoup l'appellent désormais, s'écoulent au rythme de la prière et de la règle. D'abord étonnée, les habitants lui font vite un accueil cordial et s'attachent chaque jour davantage à elle pour son sourire, son accueil et sa foi. Les enfants, par contre, ne se privent pas de taquiner cette religieuse différente des autres, parce que noire, et, pour les apprivoiser, les enseignants n'hésitent pas à raconter son histoire peu commune pour imposer le respect à son écart. Lorsqu'on lui demande de travailler comme aide-cuisinière, travail humble, elle s'engage à fond pour l'accomplir avec joie et humilité. Elle agit avec une telle conscience et un tel amour qu'une sœur fera d'elle ce compliment qui en dit long. Même à la cuisine, elle se comportait comme à l'église. Elle est nommée cuisinière principale en 1907, ce qui témoigne de la qualité de son travail. En 1910, la mère Fabretti fait écrire à Teresa Fabrice l'histoire que Joséphine lui raconte. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate en 1914, elle montre un dévouement extrême, car la maison est utilisée comme hôpital militaire. Après la guerre, en 1922, Joséphine souffre d'une pneumonie qu'elle parvient à surmonter, tout en gardant des séquelles. Une nouvelle fonction lui est alors attribuée, la conciergerie. Elle est portière, comme disent les sœurs. Cette attribution est fort bien accueillie par les jeunes filles de l'école, ravies d'apercevoir la sœur Moretta en arrivant. Elle fait merveille grâce à sa simplicité et sa gentillesse. Le 1er août 1927, elle prononce ses vœux perpétuels dans la chapelle de la rue Mirano à Venise. En 1930, Ida Zanolini s'entretient avec elle à Sant'Alvise à la demande de la supérieure générale Maria Cipolla. Ida Zanolini écrit alors, à partir de ses entretiens, un livre qui fera référence sous le titre d'Histoire merveilleuse. Avant la Seconde Guerre mondiale, à partir de 1933, la mère supérieure envisage de sensibiliser les Italiens aux missions et désigne mère Leopolda Benetti pour cette mission. Joséphine est alors pressentie pour l'accompagner. En 1935, commence pour elle une vie de fréquents déplacements. Plus tard, elle confiera que ce fut une grosse épreuve de se faire voir et de parler en public, pire encore de monter sur la scène. Elle n'hésite pas à dire avec son humour habituel « Ils veulent voir la belle bête » ou, quand on lui demande de faire la promotion du livre qui racontait sa vie pour obtenir quelques ventes, « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut m'acheter pour quelques livres ?» La région de Vérone se trouve mêlée aux événements de la Seconde Guerre mondiale à partir de 1943. Joséphine incite les militaires à garder leur âme du péché. Ils écoutent ses exhortations avec révérence. Elle insiste sur la confession pour obtenir le pardon de Dieu. Cette triste période est marquée aussi pour Joséphine par une chute accidentelle en 1942. Désormais, il lui faut marcher avec une canne. Pour ses 50 ans de vie religieuse, le 8 décembre 1943, une foule nombreuse veut lui manifester son affection. Quelque temps après son jubilé, sa santé décline encore. Elle a désormais besoin d'un fauteuil roulant. Elle dit un jour une parole sublime, « Je suis sur le Tabor, pas sur le calvaire ». Autrement dit, la croix de Jésus porte sa propre glorification. C'est la croix glorieuse. Durant ses longues heures d'immobilité, elle prie beaucoup. Elle égrène si souvent son chapelet qu'une sœur lui demande « Combien avez-vous récité de chapelets aujourd'hui ?»« Je ne sais pas. » Le maître les compte et la Sainte Vierge l'aide à les compter parce que le chapelet appartient à Notre-Dame. Comme elle médite sur la miséricorde et la justice divine, elle imagine une petite scène touchante. Je m'en vais tout doucement vers l'éternité. Jésus est mon capitaine et moi, je suis son ordonnance. Je m'en vais avec deux valises. L'une contient mes péchés, l'autre, bien plus lourde, les mérites infinis de Jésus-Christ. Que ferai-je devant le tribunal de Dieu? Je couvrirai ma vilaine valise avec les mérites de la Vierge Marie, puis j'ouvrirai l'autre, je présenterai les mérites de Jésus et je dirai au Père éternel, « Maintenant jugez selon ce que vous voyez. Je suis bien certaine de n'être pas renvoyée. » En décembre 1946, les troubles de santé laissent présager une fin prochaine. Mère Clotilde Sella se souvient. Quand je lui rappelle que nous étions samedi, jour dédié à la Sainte Vierge, Mère Joséphine s'exclame avec joie, « Comme je suis heureuse, Madonna, Madonna !» Ce sont ses dernières paroles intelligibles. Nous sommes le 8 février 1947. À demain.